Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour le 35e épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors pour ma part, c'est toujours les vacances, deuxième semaine qui touche à sa fin après un petit séjour en montagne, histoire de prendre de l'altitude, de changer un peu d'environnement et de profiter de cette belle météo. Alors dans l'épisode du jour, nous allons traiter de l'alimentation et de l'endurance. Comment optimiser ses prises alimentaires en période d'entraînement ou de compétition. Pour ce faire, j'ai fait appel à un spécialiste de la nutrition en la personne de Fabrice Kuhn, qui est un médecin du sport, ancien médecin de l'équipe de France d'haltérophilie. Fabrice est également triathlète. Auteur d'ouvrages sur la nutrition de l'endurance, il a testé, éprouvé et mis en place des stratégies pour améliorer donc son alimentation. Nous verrons avec lui donc les bases de ce qu'est une nutrition du sport. Il nous donnera également quelques conseils pour l'optimiser, comment on peut améliorer son alimentation pour gagner en endurance, pour optimiser ses performances lors de différentes séances. Alors, on verra. Qu'est-ce qu'il faut prendre avant? Qu'est-ce que l'on peut prendre pendant? Et également, comment bien récupérer donc la prise alimentaire après l'effort? Et comme je vous avais sollicité via Instagram pour que vous me posiez différentes questions liées à l'alimentation, Fabrice y répondra. Vous aurez donc les réponses à vos différents questionnements. L'alimentation du sportif est en effet quelque chose de relativement complexe. On pense parfois faire les bons choix et finalement, on va peut-être à contre-courant des bonnes pratiques et de ce qu'il faut vraiment mettre en place pour optimiser son entraînement. Aujourd'hui, un sportif ne peut pas dissocier son alimentation de sa pratique sportive, de son entraînement. Les deux vont être liés. Si vous voulez avancer, si vous voulez progresser, il faudra que votre alimentation soit de qualité, mais également adaptée. Et c'est ce que va nous dire Fabrice en nous donnant de précieux conseils. Et vous verrez qu'il faut être autant à l'écoute de son entraînement que de son alimentation, puisqu'on ne va pas s'alimenter de la même façon les jours d'entraînement et les jours où il n'y a pas entraînement. Je vous laisse en compagnie de Fabrice pour cet épisode riche en conseils, riche en informations. Vous en tirez, je pense, de nombreux bénéfices. Et puis, je vous attends derrière cet épisode pour que vous réagissiez, que vous me donniez quelles sont vos pratiques, comment vous mettez en place vous-même votre alimentation au jour le jour dans votre pratique sportive. Belle écoute à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors bonjour Fabrice, merci d'être l'invité du podcast aujourd'hui. On va parler nutrition et j'ai fait appel à toi en tant que spécialiste donc de l'alimentation et de l'endurance. Alors je vais te laisser te présenter, déjà nous dire qui tu es, d'où tu viens, quel est ton parcours professionnel et puis on verra pour ton parcours sportif par la suite.
Bonjour à tous, Fabrice Kuhn, je suis médecin généraliste, médecin du sport. Ça fait quelques années que je m'intéresse particulièrement à la nutrition pour le sport et surtout pour l'endurance parce que c'est mon domaine d'application, c'est là où moi je m'entraîne, c'est ma pratique. Et donc j'écris 6 livres maintenant, non 5 livres, le cinquième va paraître le 25 février. Tous basés sur l'endurance, certains sur l'alimentation et l'endurance, le premier nutrition de l'endurance, d'autres sur l'entraînement avec Paléofit, et puis des notions de nutrition un peu plus poussées comme ultra-performance ou le prochain qui sera sur le régime cétogène pour le sportif.
Alors, comment tu es arrivé à être médecin du sport? Est-ce que tout petit, c'était déjà quelque chose qui t'intéressait? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours professionnel?
Alors, tout petit, non, j'ai fait du foot, j'ai fait du tennis, comme plein de gamins en France. J'ai bien aimé courir, mais jamais j'ai été plus loin que ça. Puis finalement, en 98, j'ai un copain qui m'a proposé d'aller faire un marathon. J'avais jamais couru réellement, et donc j'ai fait mon premier marathon. Ma première course, c'était un marathon en 98. Et puis après, j'en ai refait, mais occasionnellement. Et puis le même copain m'a poussé finalement à faire du triathlon en 2006. Et donc 2006, ça a été le début d'aller un peu plus loin, alors avec le triathlon, avec des distances de plus en plus longues. Et puis finalement, dans la même année, en 2006, j'ai fait mon premier trail, mon premier ultra. J'ai commencé par la Saint-Étienne d'emblée, comme ça, sans réfléchir. Et puis voilà, de fil en aiguille, j'ai continué comme ça.
Et donc là, tu pratiques toujours, malgré l'absence en ce moment de compétition, le triathlon. Tu arrives à t'entraîner quand même ou c'est un peu compliqué?
C'est un peu compliqué, c'est un peu démotivant, mais du coup, je me suis quand même fait un plan d'entraînement pour essayer d'être prêt. J'ai une course qui est programmée, je suis censé faire l'Alpe d'Huez cette année en longue distance. Donc, je me suis fait un plan d'entraînement, je me programme pour ça. Ça me permet de me dire, une fois que je fais le plan d'entraînement, je n'ai plus qu'à suivre les séances et la motivation est un peu plus facile à faire. Donc, j'arrive à m'entraîner, oui. En plus, c'est l'hiver, là, donc les sorties en vélo, c'est un peu plus compliqué. Bien que les beaux jours soient là, mais voilà, le problème, c'est la partie natation. C'est vrai que ça me manque vraiment beaucoup de ne pas aller nager. Alors, j'ai nagé qu'une fois depuis 5 mois maintenant. Donc, voilà, ça, c'est un manque. Mais bon, sinon, j'arrive à m'entraîner, oui, à me motiver. Ça va.
Alors, on le verra tout à l'heure parce que tu proposes également des séances un petit peu de renforcement musculaire via PaléoFit. Tu nous expliqueras en quoi ça consiste et en quoi justement ça peut être intéressant en complément d'une pratique pédestre. Alors, avant d'être écrivain, auteur, tu as également été donc le médecin de l'équipe de France d'haltérophilie. Comment on arrive à être dans cette branche de l'haltérophilie et de devenir le médecin de l'équipe de France? Est-ce que c'est un concours de circonstances, de rencontres?
C'est un concours de rencontres, en fait, et de circonstances. C'est-à-dire que quand j'ai fait mon diplôme de médecine du sport, j'ai fait un stage à l'INSEP et je me suis retrouvé à suivre un médecin qui était médecin fédéral de l'équipe de l'haltérophilie. Et il manquait d'un médecin pour l'équipe de France à ce moment-là. Donc, j'ai commencé par m'occuper des juniors pendant quelques années, puis des seniors. Et puis voilà, les choses se sont enclenchées comme ça, tout simplement. Enfin, vraiment juste un concours de circonstances. Et par contre, après, ce sport que je connaissais pas m'a familialement assez intéressé. Je trouve que c'est quand même un beau sport avec de la stratégie, de la tactique, de la technique, de la force, de la souplesse. Je m'y suis trouvé bien pendant quelques années.
Alors, au niveau de l'écriture, et tu parlais donc de cette appétence pour l'alimentation et la nutrition, comment c'est venu? Comment, d'un sportif tel que tu es, médecin du sport à côté, comment on en vient à s'intéresser à la nutrition et à en écrire des ouvrages?
Alors, j'ai d'abord commencé à m'intéresser à la nutrition pour ma pratique à moi, pour essayer de progresser, pour essayer d'être plus efficace et puis de me sentir en meilleure santé. Donc, je me suis intéressé un peu à tout ce qui se passait. Ensuite, on m'a proposé d'écrire des articles pour Internet. Donc, j'ai écrit des articles et ce qui m'a amené à être contacté par un éditeur pour écrire mon premier livre. Et cet éditeur, Thierry Soucard, m'a donné ma chance d'écrire le premier livre qui est Nutrition de l'endurance. Où là, forcément, j'ai été obligé de me mettre encore un peu plus devant. Et c'est vrai que ça me permettait d'écrire un livre qui soit ce que je voulais, moi, ce que je voulais trouver, mais que j'avais du mal à trouver, qui soit le niveau abordable par la plupart des gens, sans être hyper scientifique et sans être complètement banal.
Trop
je voulais
compliqué.
Un peu plus. Ouais, je voulais vraiment trouver juste au milieu, ce que je n'avais pas trouvé. Donc, ça me permettait de l'apporter. Et une fois que j'ai fait ça, je me suis rendu compte que ça m'intéressait vraiment d'apporter cette connaissance à tout le monde. En fait, c'est vraiment apporter, simplifier les choses et que tout le monde puisse en profiter. Donc, de fil en aiguille, j'ai continué comme ça. Et puis, ça me plaît bien. Donc, je continue.
Donc, tu continues dans l'écriture avec un ouvrage donc à sortir là dans les prochains jours qui sera, je pense, sorti quand l'épisode du podcast paraîtra sur les différentes plateformes. Au niveau donc de cette nutrition, de ce que tu as mis en place dans les ouvrages, c'est des choses que tu as testées. Donc, tu as été toi-même ton propre cobaye pour l'écriture de ces ouvrages.
Alors, toujours. Tout ce que je dis, je l'ai expérimenté avant. D'abord, je commence par me renseigner, à lire ce qui est écrit, mais ce qui est écrit est prouvé, donc la science, la vraie science, pas les on dit. Une fois que j'ai vu ça, j'expérimente sur moi-même. Souvent, les copains participent un peu aussi. Hein, je les fais tester. Et une fois que je l'ai testé et approuvé, ça me permet de l'expliquer et de l'écrire dans les livres. Mais il y a toujours ce cheminement science, expérience et partage.
Et ce côté partage, c'est quelque chose d'intéressant qui te nourrit, je pense, également, de pouvoir avoir des retours, des expérimentations de tes lecteurs. Est-ce que ça t'intéresse également?
Oui. Alors, ça, c'est, y a ce qui m'intéresse, c'est que les gens en profitent. ce qui m'intéresse, c'est aussi l'échange. C'est vrai que quand il y a quelqu'un, quand je donne une conférence et qu'il y a quelqu'un qui pose des questions et tout, c'est toujours très agréable. Et quand il y a quelqu'un après qui me dit, bah voilà, j'ai expérimenté, vraiment, je me sens mieux, j'ai progressé. Bah, ça match, quoi. C'est vraiment ce qui fait plaisir. Et là, on se dit que, bah, on a bossé pour quelque chose. C'est vraiment super agréable. Ça, c'est le quand on a un retour comme ça, c'est vraiment ce qui nous fait du bien, ce qui continue à nous faire avancer.
Ce qui te fait avancer au point, voilà, de continuer donc ce travail d'écriture avec des ouvrages qui sortiront donc prochainement et peut-être d'autres dans les années à venir. Quelles seraient selon
idées.
T'as d'autres idées, ça j'en doute pas. Quelle serait selon toi la place de la nutrition dans la performance sportive? Est-ce que c'est bien trop souvent négligé? Est-ce que les gens ont une méconnaissance? Peut-être à travers tes ouvrages, justement, des personnes vont pouvoir prendre certaines bonnes habitudes, certaines bonnes résolutions. Mais quelle est selon toi la place de la nutrition dans l'entraînement et dans la performance?
Alors on voit tout. Alors déjà, il faut savoir que la nutrition, c'est la base en fait. C'est vraiment ce qui va nous permettre de soutenir notre effort, de soutenir notre santé et de soutenir notre progression. Donc c'est vraiment fondamental. Par contre, dans les pratiquants, on voit de tout. On voit des gens qui font complètement n'importe quoi. On voit des gens qui sont carrément à l'opposé, qui sont trop extrémistes et qu'on oublie le plaisir, parce que la nutrition, enfin l'alimentation, c'est aussi du plaisir. C'est aussi le plaisir de manger avec les amis, de partager un repas. Bon, alors en ce moment c'est compliqué, mais c'est aussi le plaisir de nos papilles. Donc voilà, il y a vraiment un côté agréable qu'il faut maintenir et qu'il y en a beaucoup oublié. Et puis on a aussi des sportifs qui ont des connaissances mais mal faites, parce que un tel a dit ça, un tel a dit ça, un tel a dit ça. Moi ce que j'essaye, c'est vraiment de partir de la science vraiment et de dire ce qui est prouvé. Et pas on m'a dit de faire un jeûne avec des pommes pendant 3 jours et que ça me fera du bien. Voilà, c'est vraiment d'essayer de trouver ce qui est prouvé et efficace.
En revenant parfois même à des donc concepts que nos ancêtres, les hommes préhistoriques hein, dans Paléophyte, avaient entre guillemets mis en place et dont nous sommes finalement qu'une toute petite partie de l'évolution. Comment vous avez pu, avec les personnes qui t'ont aidé dans l'écriture, revenir justement sur ces grands concepts de l'alimentation et aujourd'hui l'adapter aux sportifs, mais également aux populations donc qui ne sont pas forcément toutes aussi sportives que l'on peut l'être?
Alors, à Paléophyte, c'est plus une méthode d'entraînement que de la nutrition. Dans toutes les parties nutrition, finalement, dans tous les régimes qui sont efficaces, finalement, ce qu'on retrouve, c'est manger vrai. En fait, c'est-à-dire que plus on mange vrai, plus on sera performant, plus notre santé en profitera. Alors après, pour Paléophyte, ce qui m'a permis de reconstruire ça, c'est en fait, on a comparé un peu un peu de paléontologie, tout ce qui avait été vu. Alors, je suis pas un expert, mais j'ai lu des études, je me suis un peu renseigné là-dessus, confronté avec la science. Et finalement, on s'est rendu compte que ce qui profitait autant à la santé qu'à la performance en endurance, c'était la même chose. Et c'était de revenir sur ce mélange d'activités physiques qu'avaient les chasseurs-cueilleurs. Donc, c'est-à-dire que c'est de l'endurance, mais de la vraie endurance, c'est-à-dire ne pas aller trop vite, rester vraiment en endurance. C'est de la vitesse. Donc, la vitesse, ça peut être le fractionné, les sprints. Et c'est de la force, donc entraînement, musculation, et c'est de trouver le bon mix. Et Paléophyte avant tout. Alors même si moi je mets souvent les séances musculation parce que pour nous sportifs d'endurance c'est peut-être pas ce qu'on sait le mieux faire. Mais ce qui est avant tout le Paléophyte, c'est vraiment le mélange entre toutes ces activités. Et on se rend compte que c'est ce qui fait profiter les marathoniens, les triathlètes, les trailers. Qui profite un petit peu à tout le monde. Et au côté nutrition, c'est le côté vrai, mais on le retrouve en essayant de manger le plus naturel, c'est en cuisinant nous-mêmes, en prenant des fruits, des légumes, en prenant des viandes de qualité, du poisson, et en évitant tout ce qui est ultra transformé, les produits déjà prêts. C'est ce qui nous permet à la fois d'être plus efficace. Mais ça a été construit vraiment sur la science, sur toutes les publications scientifiques, et il y en a beaucoup qui ont été faites.
Alors, est-ce que tu constates, de ton regard de médecin et de donc praticiens spécialisés, que les personnes aujourd'hui bougent de moins en moins, et est-ce que tu serais en mesure de leur prescrire un petit peu d'activité physique? Est-ce que c'est dans les tuyaux?
Alors, oui, on bouge de moins en moins, et malheureusement, beaucoup de médecins poussent les gens à bouger de moins en moins. J'en discutais encore hier. Souvent, on dit « faites un peu plus de sport, vous avez qu'à descendre d'une station de métro plus haut, plus tôt, ou alors faire deux arènes de bus à pied, ou alors promener votre chien ». Mais en fait, ce n'est pas une activité suffisante. C'est bien, il va y avoir une dépense calorique, sauf que le sport, ce n'est pas qu'une défense calorique. C'est aussi créer un stress physiologique, enfin plusieurs, parce qu'il y a plein de stress physiologiques. Ça peut être des troubles de la calcémie, ça peut être une hypoxie, ça peut être des contraintes mécanique sur les muscles, ça peut être une baisse des réserves énergétiques, et c'est ça qui nous fait progresser, c'est ça qui nous maintient en santé. C'est la même chose, en fait. Progresser en performance et progresser en santé, c'est les mêmes stress physiologiques qui ont été déclenchés et qui poussent l'organisme à s'adapter. Et malheureusement, on dit aux gens, oui, vous allez dépenser des calories, c'est bien, oui, vous allez faire ça, mais en fait, si on a fait un effort qui est trop doux,
il n'y aura pas ce stress finalement. Oui.
Voilà. Et il n'y a pas ce signal qui dit il faut que je devienne mieux. En fait, l'organisme, il n'aura pas eu ce signal en se disant mais la prochaine fois, il faut que tu puisses résister à ça, il faut que tu puisses le faire. Et ça, c'est un problème. Et je pense qu'on veut être trop gentil avec les patients et pas les pousser assez à se dire voilà, il faut le. Alors, après, c'est une question d'intensité. C'est-à-dire que moi, si je vais faire du fractionné, ça sera une vitesse. Mais si Kipchoge va faire du fractionné, ça sera une autre vitesse, mais c'est la même intensité, il sera beaucoup plus rapide que moi. Donc, des patients, peut-être que leur vitesse sera faible, mais il faut les conforter en les disant que c'est l'intensité qui est importante. Et je pense que ça, on le fait pas assez, et on n'est pas assez à dire aux patients, il faut sentir votre zone de confort. De temps en temps, pas tout le temps, mais il faut le faire pour qu'on crée ce signal. Et ça, je pense que on a besoin de le signer, quoi. Et c'est pas fait. Pas suffisamment souvent.
À brusquer un petit peu le corps de façon à bousculer un peu nos habitudes. Aujourd'hui, quand tu vois, toi, de ton regard de sportif et médecin, le fait que tout soit fermé, toutes les salles, tout ce qui peut être, entre guillemets, lié au sport soit un peu mis à la marge dans notre société, contexte de pandémie, est-ce que tu trouves ça normal, sans forcément faire de grandes polémiques, mais quel est ton regard sur la gestion du sport et de cette importance de bouger dans notre société où le contexte est suffisamment compliqué?
Il faudrait qu'on arrive tous à bouger beaucoup plus que ça. C'est-à-dire que, enfin tous, il y en a certains qui bougent suffisamment, c'est pas la peine de les faire bouger plus. Mais il faudrait qu'on arrive à vraiment bouger. Donc oui, c'est dommage que les salles soient fermées. Après, on n'est pas obligé de tout faire en salle. La musculation, on peut aussi le faire en plein air. Alors c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ne sont pas assez motivées, qui ont besoin d'aide, qui ont besoin d'être encadrées pour faire les choses bien. C'est vrai que l'hiver, c'est un problème parce que avec les conditions météo, on ne peut pas toujours sortir. Il y a toujours un moyen de faire un peu de sport quand même en dehors. Bon, c'est vrai que pour nous, les coureurs, c'est plus facile. Mais moi, mes séances de musculation que je mets sur PaleoFit, je les fais à la maison ou dehors quand c'est l'été. En ce moment, c'est plutôt à la maison. D'ailleurs, j'en ai une que j'ai programmée bientôt qui j'ai appelée 3 mètres carrés parce que je l'ai fait dans 3 mètres carrés.
Donc, pas besoin de matériel, pas besoin d'un grand espace et c'est suffisant pour être bien, bien rincé parce que pour l'avoir expérimenté durant le confinement, j'en ai fait beaucoup et je m'inspirais de tes séances quand tu les publiais sur ta page Facebook et je peux te dire oui que j'ai fini plusieurs fois assez mal en ayant justement eu cette envie de pousser un peu mon corps dans certains retranchements parce qu'on a beau dire on fait de la course à pied, mais ce côté renforcement musculaire que tu peux proposer par ces séances paléophytes, elles m'ont été bénéfiques. Donc, je pense que le renforcement musculaire, tu ne vas pas me contredire, je pense que ça fait partie de l'entraînement.
Ah oui. Moi, c'est systématiquement de 2 à 4 séances de musculation courtes. Ça fait 20 à 30 minutes à chaque fois. C'est donc 2 ou 3, 4 par semaine. Et c'est ça toute l'année. Parce que je me suis rendu compte quand j'ai écrit, enfin, un petit peu avant que j'écrive paléophyte, ça m'avait vraiment fait progresser, quoi. Ça a été vraiment, j'ai franchi un cap quand j'ai commencé à faire de la musculation. Alors, au début, Quand j'ai commencé à faire ça, c'est parce que j'en avais marre d'avoir des courbatures après les marathons, après les Ironman et de plus pouvoir marcher. Je me suis dit, il faut que je trouve une autre solution parce que là, ça va pas. Donc, j'ai commencé par faire ça. Et puis, je me suis rendu compte que ça fonctionnait vraiment. Et du coup, je me suis mis sur tout ce qui était recherche sur la musculation pour la course à pied. Et tout de suite, vraiment, j'ai fait un bond, j'ai progressé. Je crois que c'est à cette époque-là où j'ai dû gagner 50 minutes sur Ironman en un an. Et c'est vrai que je finis beaucoup mieux mes compétitions. J'ai plus de courbatures sur un marathon. J'ai quasiment pas de courbatures. J'ai les jambes un peu lourdes, mais voilà. Sur un Ironman, j'ai pas de courbatures. Ça va un petit peu plus lentement sur le marathon, donc c'est vrai que ça casse un peu moins de fibres musculaires, mais j'ai pas de courbatures sur trail. Pareil. Ça transforme la vie, quoi. Et puis, ce que je me suis rendu compte aussi, c'est que sur Ironman, parce que c'est quand même ma discipline favorite, je ralentis moins que les autres en course à pied. C'est-à-dire sur le marathon, la deuxième partie, j'arrive à conserver ma vitesse depuis que je fais de la musculation. Après, ça colle tout à fait avec ce que disait la recherche scientifique. Hein. On sait que faire de la musculation, c'est très important pour les performances, même pour les coureurs. La plupart d'ailleurs maintenant à haut niveau en font, hein, que ce soit des marathoniens ou des triathlètes. La plupart des triathlètes en font et puis en font pas mal. Ça apporte pas mal de choses. Ça apporte une amélioration sur l'économie de course. Ça apporte, comme je l'ai dit, moi, ça me permet de limiter le ralentissement en fin de course. D'ailleurs, il y a une étude scientifique qui avait prouvé ça. En fait, ils avaient testé des triathlètes. Ils leur avaient fait faire un programme de musculation versus un autre groupe qui n'avait pas de programme de musculation. Ils leur ont fait faire une simulation de triathlon distance olympique. Bon, ils avaient enlevé la natation parce que c'était un peu compliqué à organiser. Et ils avaient fait un 40 km à vélo. Et du coup, derrière, un 10 km en course à pied. Et ceux qui avaient fait l'entraînement en musculation allaient plus vite sur le 10 km en course à pied que le groupe qui n'avait pas fait l'entraînement en musculation. Et la différence se faisait vraiment sur les 5 derniers kilomètres où on notait que le groupe sans préparation, sans musculation, ralentissait un peu plus, alors que les autres conservaient la vitesse. Donc, c'est exactement ce que moi, je ressens sur un Ironman. Donc, voilà, ça fait partie de mon entraînement systématique. Et en plus, c'est un bénéfice santé. C'est sûr que on s'est rendu compte que contre beaucoup de maladies, ce qui est important, c'est d'avoir le mix endurance musculation. C'est vraiment l'idéal. Donc on allie les bénéfices des deux. Voilà. Donc pour moi, c'est systématique.
À choisir entre une séance supplémentaire de course à pied ou une séance de musculation, tu pencherais quand même plus vers une séance de musculation ?
Bah, ça dépend de ce que tu fais. C'est-à-dire que si tu cours 5 fois et que tu fais la musculation une fois, bah oui, je vais mettre une séance de musculation en plus. Si tu cours 3 fois et que tu fais la musculation 3 fois, je mettrais plutôt une séance de course à pied en plus. Après, moi, ce que je préfère, c'est aller courir dans la nature. Donc, si c'est juste le plaisir, moi, j'irai courir.
On peut mixer. C'est-à-dire que certaines de tes séances, et là, je te tends la perche, de mixer la course et le renfo.
Ouais, alors c'est ce que je fais. Moi, c'est ce que j'appelle les séances mixtes et que je propose aux copains que j'aide à se préparer. C'est qu'il y a systématiquement des séances mixtes. Alors souvent, c'est entre 1 et 2 minutes d'exercice de musculation à enchaîner avec 5 minutes d'endurance. Et puis on reproduit ça. Donc c'est ce que j'appelle les séances mixtes. Donc je travaille un petit peu forcément les jambes hein, quand je fais la musculation là-dessus. Donc des sauts de grenouille, des flexions, des fentes. Mais aussi un peu le haut du corps avec des burpees, des pompes, parce que c'est aussi important d'avoir un tronc bien fait, hein, donc le gainage. Puis surtout pour un triathlète, c'est intéressant quand même. Et puis donc, j'essaie d'alterner ça. Et oui, c'est les séances mixtes. Alors, c'est sûr que j'en passe plus l'été que l'hiver, parce que s'il faut faire des pompes l'hiver, que c'est trempé par terre, pour aller courir dehors, c'est pas pratique. Mais oui, ça fait partie de mes séances fétiches. Et puis, ça apprend aussi à courir avec les jambes
un petit peu lourde,
fatigué, oui. Ouais, bien fatigué comme sur la fin d'un marathon. Donc ça permet aussi mentalement de reproduire un peu ces conditions-là. Il y a une autre séance que j'aime bien aussi que j'appelle Trix. C'est plus spécifique triathlète, mais ça peut être un peu pour tout le monde, même le marathonien peut en profiter. Ça serait même le trailer d'ailleurs. C'est je commence par une séance de 30 minutes de home trainer de vélo et je finis par l'intensité pour charger un peu les jambes. Ensuite, je fais un petit effort de musculation. Là, je fais un Tabata souvent, donc Tabata, pour ceux qui ne savent pas, c'est 4 minutes avec 20 secondes à fond, 10 secondes récup. Alors là, je fais un Tabata souvent, ça peut être saut de grenouille quand je suis en fin de prépa. Donc voilà, ça fait pas mal de sauts de grenouille. On sort avec les jambes bien cartonnées. Et tout de suite, je pars courir pour essayer de me retrouver à l'heure de course assez souvent. pour reproduire vraiment cette sensation de jambes bien, bien fatiguées avant, et reproduire un peu ce qu'on trouve en fin d'effort. Donc ça, c'est une autre séance que j'aime bien, qui est aussi un mélange comme ça. J'aime bien mélanger ces choses-là.
Donc on mixe finalement voilà le renfo et la course à pied. Donc c'est enfin moi pour l'avoir expérimenté en consultant justement ta page Facebook, on sort avec des jambes qui sont assez lourdes, mais finalement après la course à pied fait que on retrouve une certaine aisance, mais on a bien travaillé. Et pour l'avoir expérimenté à la sortie du confinement, c'est là où j'ai fait mes meilleurs chronos après avoir mixé pendant 2 mois du renfo, un peu de course à pied, un peu de gainage. Donc c'était vraiment bénéfique.
Ouais, ça reproduit les sensations qu'on peut avoir après 2 heures de course, par exemple. Ou alors pour un triathlète, ça reproduit les sensations qu'on va avoir en ayant posé le vélo, en ayant appuyé comme un dingue sur les pédales. Donc ça permet vraiment finalement de retrouver cette sensation-là et sans trop se perdre de temps avant. En fait. Et donc ouais, c'est vraiment sympa. Et puis en plus, c'est des séances qui sont vraiment sympas à passer à plusieurs. Ça peut aussi être. Il y a une autre façon de faire, c'est que moi je pars avec des amis qui ont l'habitude de s'entraîner en paléo fit avec moi, qui ont vraiment l'habitude, qui connaissent comment je travaille. Et puis chacun son tour, on fait un petit bloc. On imagine un petit bloc muscu, puis on court en endurance, puis on fait un petit bloc comme ça. Et c'est vrai que en plus avec l'endurance derrière, ça permet vraiment de courir à plusieurs niveaux, de courir ensemble, de discuter, de garder ce côté sympa. C'est motivant pour ceux qui aiment pas trop la muscu, parce que bon, c'est vrai que ceux qui font de l'endurance sont pas toujours des fans de muscu, mais du coup de le faire avec les copains, c'est plutôt un peu plus sympa. Puis c'est des blocs qui sont assez courts, donc c'est assez motivant. Et puis c'est vrai que c'est efficace.
On peut casser le mythe finalement que la musculation fait grossir ou du moins prendre du muscle, parce que on en a besoin, tu l'as dit, hein, pour avoir un tronc relativement fort. Et puis les jambes, même si on court, elles ont besoin également d'être renforcées. Enfin, toutes nos articulations finalement.
Ouais, alors il y a un côté préventif, il y a un côté performance, et puis c'est vrai qu'on va pas prendre de poids finalement. Nous, les coureurs ou les sportifs d'endurance, nos séances d'endurance créent des adaptations qui nous empêchent, enfin qui interfèrent avec la prise de poids. C'est-à-dire que si vous avez couru avant et vous faites la musculation juste derrière, vous allez avoir des interférences entre les deux, donc vous allez gagner en puissance, mais vous n'allez pas gagner en muscle. Vous n'avez pas construit de muscle, donc on prend pas de poids. Par contre, si on veut prendre du poids, il faut penser du coup à éloigner ces deux séances. Si on rapproche trop l'endurance de la musculation, on va pas prendre de poids. Il y a certains qui veulent prendre un peu de muscle. Dans ce cas-là, il faut qu'ils pensent à éloigner. Donc il faut, en fait, ces interférences, on peut les utiliser de ces deux façons-là. Mais pour nous, effectivement, alors on risque de prendre peut-être un peu de muscle. Moi, depuis que je fais ça, j'ai pris un peu de muscle, mais ça va pas altérer les performances. J'ai pris un peu de poids. Mais rien de significatif, ça n'a pas altéré les performances, au contraire.
Alors justement sur le poids, j'avais une question qui devait venir un petit peu plus tard dans notre interview. Est-ce qu'il faut se peser régulièrement? Est-ce que le poids est un bon indicateur de notre forme, poids de forme? Est-ce que c'est quelque chose qui va être en corrélation avec nos meilleures performances, ou est-ce qu'il n'y a pas forcément de lien?
Alors oui, le poids est à prendre en compte, parce que quand on fait de la course à pied, le poids, il faut le déplacer. Donc oui, c'est à prendre en compte, surtout sur du trail où il faut le monter. Mais même sur un marathon un peu vallonné, le poids, faut le traîner. Par contre, le poids seul n'a aucun intérêt. Moi, je me pèse très rarement parce que finalement, ce que je vis, c'est plutôt à me sentir bien dans mes baskets. Et puis j'ai pas de problème de poids, je sais que je vais pas prendre je fabrique pas trop de gras, je sais que mon métabolisme est bien fait, que je mange bien. Donc voilà, pour moi le but, c'est plutôt de me sentir en forme, même si le poids peut être un petit indicateur. Je sais que je vais essayer de perdre 1 kilo à l'approche d'une compétition, mais pas plus que ça, parce que finalement mon poids varie très peu. Après, il y a certaines personnes qui eux ont tendance à prendre du poids. Dans ce cas-là, il faut faire attention. Mais il faut pas non plus se restreindre trop, parce que dans ce cas-là, on risque de limiter ses performances. Donc, pour moi, le truc, c'est vraiment l'alimentation. Avant d'être une façon de perdre du poids, c'est surtout une façon de me sentir bien. Et je pense que c'est ça qui est le plus important.
Alors, quel conseil tu pourrais nous donner si on devait structurer une alimentation de sportif, alimentation, quelles seraient les bases? Quels seraient les bons préceptes que tu pourrais nous donner pour débuter?
Bon, alors la première chose, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est manger vrai. C'est-à-dire, cuisiner et manger vrai. Après, il faut... Donc, moi, la base, c'est beaucoup de fruits. Enfin, beaucoup de légumes, d'abord. Des fruits, de la viande et du poisson de qualité. Mais vraiment, beaucoup de légumes. S'il n'y a pas de légumes, moi, ça me manque. Je n'ai pas un repas ou sans légumes. Au petit déjeuner, j'ai systématiquement des fruits. Voilà. Après, c'est, il faut s'adapter à ce dont on a besoin. Moi, ça m'arrive de... La nutrition, c'est le soutien et c'est la base de tout. Mais c'est aussi un outil. On peut s'en servir. C'est-à-dire qu'il y a certaines séances que je vais faire avec de la récupération juste derrière parce que je sais que j'ai travaillé fort au niveau musculaire. Donc là, je vais avoir besoin de reconstruire mes muscles. Il y a certaines séances où je sais que je vais enchaîner avec une grosse séance derrière. Donc, je vais manger derrière avec des glucides pour pouvoir restocker. Mais il y a certaines séances où finalement, bah, j'ai couru une demi-heure. Enfin, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai couru 50 minutes, une heure. Le lendemain, je vais aller faire du vélo souple. Bah, j'ai pas besoin de me gaver de glucides pour là. Donc là, je vais manger des légumes, un peu de fruits, un peu de féculents si j'en ai envie. Mais voilà. En fait, ce qu'il faut, c'est programmer dans la globalité. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je vais faire? Quand je vais le faire? Ça, c'est les choses importantes. Après, il y a une chose qui a transformé ma vie aussi il y a très longtemps, c'est le petit déjeuner. Le petit déjeuner à la française avec un café,
les viennoiseries,
ou même la baguette. La baguette et la confiture, c'est hors de question pour moi. D'ailleurs, quand je vais dans un hôtel, je regarde ce qu'il y a comme petit déj parce que c'est vraiment important. Pour moi, il y a des œufs systématiquement au petit déj. Si c'est pas des œufs, c'est du jambon, mais c'est la plupart du temps des œufs. Un peu de pain complet éventuellement ou alors une galette de sarrasin, un fruit, des noisettes, des amandes ou un truc comme ça, puis une boisson. Voilà, pour moi c'est et puis du beurre éventuellement. Ça c'est l'essentiel. De me faire un petit déj comme ça. Alors il y a des fois aussi je ne prends pas de petit déj parce que j'en ai pas envie. Ça m'est arrivé hier. J'avais pas envie de prendre de petit déjeuner. J'avais pas faim quand je me suis levé. Voilà, c'est pas un problème. Je zappe mon petit déjeuner. Et après donc dans chaque assiette pour moi. Chaque repas, l'essentiel, c'est les légumes qui représentent à peu près la moitié de mon assiette. Que ça soit le matin, le soir, en essayant de varier. Donc, ce qu'on dit souvent, c'est d'essayer d'avoir des couleurs différentes, parce que les couleurs, c'est les antioxydants. Donc, plus vous avez de couleurs, plus vous avez d'antioxydants, donc plus vous avez de flèches à votre arc. La deuxième chose, c'est d'essayer d'avoir au moins 10 fruits et légumes différents par semaine. Donc, ça va aussi avec les couleurs, c'est autrement.
En essayant peut-être de, en essayant de respecter les saisons. Là, toi, on a reçu publicité. Oui. Mon fils me dit, mais papa, pourquoi on a des fraises au mois de février? Ben, je dis, elles sont pas de France, donc on n'en achètera pas et on n'en mangera pas. Donc, on essaie de manger peut-être aussi en fonction des saisons. Ça, je pense que
ça va dans le vrai. Je suis d'accord avec toi. C'est dans l'alimentation vraie. C'est voilà, bah nous en ce moment, c'est de la choucroute, c'est des choux. Il reste quelques pommes, il reste quelques oranges. Voilà, c'est on mange. Voilà, on essaye de rester vrai aussi dans le choix des saisons, bien sûr, bien sûr. Et puis en plus, quand tu choisis des aliments de saison, ils sont quand même meilleurs.
Et puis ça coûte pas forcément plus cher. Enfin, on se dit des fois manger des fruits et légumes, c'est des produits, c'est des primeurs, mais on arrive à trouver de très bons produits à des coûts raisonnables et beaucoup moins chers que nos aliments transformés. Je pense que ça, on peut le garantir.
Oui, oui. Et puis au niveau du goût, c'est quand même meilleur. Et puis bon, alors c'est vrai que j'ai l'avantage, c'est que j'aime bien cuisiner aussi. Et Hugues Daniel, avec qui j'ai écrit trois de nos livres, on se téléphone souvent et on partage des recettes. On aime bien cuisiner, donc on est souvent à partager nos recettes aussi. Mais ça fait partie du plaisir. Et c'est vrai que, alors ce qui est assez étonnant, c'est que quand je pars quelque part avec des amis ou des gens qui me connaissent pas mais qui connaissent mon passé de d'écriture de livres sur la nutrition, ils sont toujours intrigués parce que je vais manger. Ils ont toujours peur que ça soit pas terrible, que voilà. Et en fait, non, ils se rendent compte, bah, finalement, on mange bien, quoi. on peut manger de qualité
plaisir, ouais.
et manger bon. Et c'est pas du tout opposé. Et puis, bah, il y a des fois, on a le droit de se faire plaisir. Enfin, on a le droit de faire des extras, quoi. Il y a autre chose qui nous fait envie. On a le droit d'y aller. C'est pas grave si c'est occasionnel.
Donc, fruits et légumes, ça, 50% de ton assiette. Après, avec quoi tu complètes justement ce bol
alors,
alimentaire?
J'ai une partie protéinée, viande, poisson, œuf. J'ai des féculents en fonction de mes activités, en fonction de mes envies. Alors, le féculent, c'est sûr que c'est pas que pâtes, comme malheureusement, beaucoup de gens nous voient sportifs manger des pâtes. Non, il n'y a pas énormément de pâtes chez nous, mais il y a du riz, il y a des haricots rouges, Là, j'ai mis des lentilles à tremper. J'ai aussi mis des pois chiches à préparer. Alors, c'est vrai que nous, il y a beaucoup de riz parce qu'on aime le riz, mais il y a plein de choses, il y a plein de moyens de faire autrement. Le pain, quand je peux, j'essaie de le faire. Donc là, j'ai aussi un pain au levain. Je prépare mon levain naturel. Donc là, j'ai un pain qui est en train de lever pour ce soir. Ouais, j'essaye de varier. Il y a quand même des pâtes, c'est sûr, il y a quand même des pâtes. Mais bon, voilà, on essaye vraiment de varier les choses. Après, c'est les lentilles, c'est bien. J'aime bien. Alors les lentilles, c'est vrai que quand j'étais à l'école, j'aimais pas les lentilles au petit salé. Voilà, ça me plaisait pas. Mais j'ai trouvé d'autres solutions. Un plat que j'aime beaucoup, c'est les lentilles avec du pesto. Voilà, j'essaye de varier comme ça. Alors le fromage, il y en a un petit peu aussi. Les laitages, il y en a un petit peu. Les pâtisseries, il y en a vraiment pas beaucoup. J'essaye de mettre pas mal de noix, de noisettes aussi. Alors, c'est vrai que je les mets surtout au petit-déj, parce que je trouve que ça me cale bien pour la journée.
Au niveau des laitages, est-ce qu'il y a des dangers, entre guillemets, sur les tendons, sur un côté inflammatoire? Beaucoup d'athlètes remontent ce genre de choses en disant « Moi, j'ai banni complètement les laitages et depuis, je vais beaucoup mieux. » Est-ce qu'il y a un lien ou c'est plus un mythe? Est-ce qu'il y a un lait comme toi, le lait de brebis qui serait moins nocif, entre guillemets, moins acide?
Bon, déjà, a priori, ce qu'on recommande, c'est plutôt moins de 2 laitages par jour. Déjà, on va sortir des recommandations françaises qui sont 3 laitages par jour. C'est plutôt 0, 1 ou 2, en sachant que les laitages ne sont pas obligatoires. On a tout à fait moyen de trouver le calcium ailleurs. L'autre problème des laitages, c'est qu'ils sont acidifiants. Alors, pas trop le lait, mais les fromages sont très acidifiants. Ça ne veut pas dire qu'ils ont un goût acide, hein. C'est-à-dire qu'ils sont très acidifiants. Et on pense que ça pourrait favoriser les tendinopathies en faisant cristalliser dans les tendons. Mais après, on n'a pas énormément de science derrière ça. Mais à partir du moment où un athlète dit « j'avais des tendinopathies, j'ai arrêté les laitages, je me sens mieux », eh ben, qu'il continue. C'est juste le bon sens. Si lui, il trouve que ça lui fait du bien, qu'il s'écoute. Peut-être que lui tolère mal les laitages, qu'il s'écoute. Voilà. Peu importe s'il a de la science derrière, s'il complète ses apports en calcium par plein de fruits, de légumes, des eaux riches en calcium, parfait. Il a pas mal. C'est le plus important.
Alors, au niveau, Fabrice, des macronutriments, glucides, lipides et protéines. Est-ce que tu peux rappeler leur utilité dans le fonctionnement et ce qu'ils vont nous apporter dans notre pratique sportive? Avec, comme tu l'as dit, plus pour toi tout ce qui va être légumes et avec après des apports protéinés et des glucides, on le verra tout à l'heure, en plus faible quantité.
Bon, alors on va commencer par les glucides. Donc les glucides, c'est notamment le sucre, mais ce qu'on trouve aussi dans tous les végétaux. Voilà. Donc les glucides nous permettent de faire des efforts intenses, rapides. En fait, il faut comprendre que notre métabolisme, quand on fonctionne, notre organisme, il va utiliser 2 carburants principaux, les glucides et les lipides. Les lipides sont utilisés plutôt pour les efforts lents parce qu'ils sont difficiles à consommer. Et quand on va monter à haute intensité, on va pas réussir à utiliser les lipides. Quand on monte à haute intensité, on a besoin des glucides. Donc, plus votre effort est lent ou modéré, plus on consomme de lipides, donc c'est les graisses. Plus l'effort est intense et rapide, plus on consomme de glucides. Et donc, notre métabolisme s'adapte en permanence et donc fait le choix optimal. Le problème, c'est que si on mange trop de glucides trop rapides, index glycémique élevé, donc qui font augmenter vite la glycémie, on va stimuler l'insuline et l'insuline va faire pencher la balance plutôt en faveur des glucides. Pour un maintenir, c'est un problème parce qu'on va consommer trop vite nos glucides, notre glycogène dans les muscles et on va se retrouver un peu limité. Donc voilà. Donc les glucides, c'est le sucre, c'est l'amidon, c'est des fibres. Et chez nous, c'est le glycogène qu'on met dans nos muscles, c'est la forme de stockage du glucose qu'on met dans le muscle et dans le foie. D'accord? Donc, on en a un stock assez limité. Finalement, c'est plutôt 300, 400 grammes au total pour quelqu'un. Et pour un sportif d'endurance, très entraîné, on peut monter à 500, 600 grammes. Alors, ça, sachant qu'un gramme de glucides, de glucose comme ça, c'est 4 kilocalories. D'accord ? Donc, finalement, on va avoir, allez, maximum 2400 kilocalories, ce qui n'est pas énorme. Par contre, du gras, vous savez tous, on en a plein, même les gens particulièrement maigres. Et un gramme de graisse, c'est 9 kilocalories. Donc, c'est plus du double. Donc, on va imaginer qu'on ait 5 kilos de graisse. Eh ben, on est déjà à bien plus, on est déjà à 30 000 kilocalories. D'accord? Donc, le but, ça va être surtout d'épargner le glycogène pour pouvoir durer dans l'effort. D'accord? C'est une partie de l'explication du mur du marathon, c'est que finalement, on a arrivé à baisser suffisamment le glycogène musculaire pour qu'on n'arrive plus à courir vite. Le but de l'entraînement, finalement, c'est de déplacer notre métabolisme pour qu'il puisse consommer plus de graisse à une intensité donnée. D'accord? C'est-à-dire que je vais dire, on va partir en valeur absolue, à 60% de mon intensité d'effort, je vais consommer, on va dire, 10 de lipides. Le but, c'est que le 10 de lipides, finalement, enfin, qu'on arrive à le déplacer et qu'on arrive finalement à être à 80 ou enfin, augmenter de plus en plus ça. Ça, c'est le but de l'entraînement. Mais c'est aussi le but de notre alimentation. Si on choisit bien les aliments et qu'on évite les aliments à index glycémique trop élevé, c'est-à-dire que si vous mangez un pot de miel avant de partir, eh ben vous allez faire sécréter de l'insuline et vous allez déplacer la courbe dans l'autre sens. Du coup, on va se créer un frein. Voilà. Donc ça, le deuxième macronutriment, on en a parlé, ce sont les graisses. Mais les graisses, elles ont une autre fonction aussi. Ce sont des hormones, elles vont nous aider à produire des hormones. Elles sont le constituant de nos cellules et elles sont la base de l'inflammation. Si on choisit bien les graisses, on peut créer un contexte anti-inflammatoire. Si on choisit mal les graisses, c'est-à-dire en gros les oméga-6, on va se retrouver avec un contexte pro-inflammatoire qui favorise les inflammations, qui pourrait faire perdurer des tendinopathies, des douleurs comme ça. En plus, en sachant que nombre de maladies, la maladie d'Alzheimer, les maladies cardiovasculaires, sont dues, entre autres, à un excès d'inflammation. D'accord? Donc, choisir les graisses, c'est savoir choisir des réserves énergétiques. Choisir les bonnes, c'est favoriser le bon fonctionnement de l'organisme. Alors, entre autres, on a dit l'inflammation, mais aussi, il faut savoir que donc les oméga-3, par exemple, sont anti-inflammatoires, les oméga-6 sont pro-inflammatoires. On mange trop d'oméga-6 et pas assez d'oméga-3. Donc, c'est pour ça qu'il faut rééquilibrer les oméga-3. Donc, c'est le poisson gras, c'est des œufs de poules élevées aux graines de lin, c'est l'huile de colza, c'est voilà, d'accord.
D'apporter ces graisses, comme tu le disais, au petit déjeuner, on profite de cet effet des graisses sur l'ensemble de la journée. Enfin, tu le disais, les œufs au petit déjeuner. Ouais,
alors c'est pas que au petit déjeuner, oui. C'est à long terme.
À long terme.
L'autre avantage des graisses au petit déjeuner, c'est que ça va te permettre aussi de diminuer l'index glycémique de ton repas du matin et de limiter la sécrétion d'insuline.
Donc, on n'a pas le coup de pompe à 11h et on est un peu plus…
Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est les deux premiers macronutriments. Le troisième, c'est les protéines. Donc, les protéines, elles peuvent servir aussi de carburant, mais c'est un peu comme si on se chauffait avec le bois de la maison. C'est une erreur. C'est aussi 4 kilocalories par gramme de protéines comme pour les glucides. Mais bon, c'est pas le but des protéines. Le but des protéines, c'est un matériel de construction. Ça va construire les enzymes, pour que notre organisme puisse fonctionner, ça va construire nos muscles, ça va construire toutes les structures. Donc voilà, donc c'est un matériel énergétique de secours, mais c'est surtout un matériel de construction.
Alors, avec ces trois grandes familles, comment on va pouvoir optimiser notre alimentation pour être en forme et avoir des performances qui soient correctes? Comment on va les utiliser et dans quel but finalement? Est-ce que c'est absolument des meilleures performances? Est-ce que c'est, comme on l'a vu tout à l'heure, pour peut-être prévenir de certaines blessures? Quel est leur rôle, finalement, de cette bonne alimentation?
C'est tout ça. C'est l'avantage, c'est que finalement, être en meilleure santé et être plus performant, ça passe par la même chose, quasiment. C'est-à-dire que pour les glucides, je vais choisir ceux qui ont un index glycémique bas pour éviter de sécréter trop d'insuline et pour éviter de faire trop d'inflammation. D'accord. Si je sécrète moins d'insuline, il y a moins de maladies, notamment le diabète ou des choses comme ça. Et en plus, mon métabolisme est plus performant. D'accord. Pour les graisses, je vais rééquilibrer. Je choisis plutôt de m'enrichir en oméga-3 et de manger un peu moins d'oméga-6. Et dans ce cas-là, à la fois, mon métabolisme va apprendre à consommer plus de gras et il y aura en plus moins d'inflammation. Pour les protéines, il faut trouver le juste milieu. C'est combien j'en ai besoin. Alors, c'est à peu près pour un sportif d'endurance, 1,5, 1,7 grammes par kilogramme de poids de corps, et de les répartir au mieux sur la journée, matin, midi et soir. Il faut idéalement l'avoir en 3 prises par jour, voire 4. Et en faisant ça, on a une méthode assez simple d'avoir une nutrition de qualité. Après, on va jouer un petit peu, on va moduler un petit peu en fonction du contexte. Si je me suis entraîné et que j'ai fait 10 km de descente à fond, en courant, bah, j'ai intérêt à rajouter un petit peu de protéines derrière pour reconstruire rapidement le muscle. Si je m'entraîne un peu moins, je baisse un peu la ration de glucides.
Donc, un jour sans entraînement, on n'est pas obligé d'avoir un apport glucidique hyper important. On peut se dire finalement, j'ai suffisamment de réserves pour passer la journée. Et si j'ai une séance le lendemain, ben là, peut-être je rechargerai un petit peu.
Ouais, tout à fait. Ou alors, on peut faire autrement. C'est, je m'entraîne tranquille aujourd'hui, donc je mange pas énormément de glucides. Par contre, je sais que demain matin, je vais faire une séance de fractionné. Enfin, je vais en manger un peu plus le soir pour pouvoir faire ma belle séance de fractionné. Par contre, si je sais que c'est juste de l'endurance pure, bah, je vais peut-être pas prendre énormément de glucides. En fait, c'est la périodisation. On va périodiser un peu les apports en glucides en fonction de ce qu'on va, de ce qu'on prévoit, de ce qu'on a fait. Alors ça, c'est de la finesse. Hein. C'est vraiment, j'ai besoin de glucides pour faire du fractionné. Si je fais de l'endurance, bah, je vais fonctionner surtout sur des graisses, donc j'ai pas besoin d'apporter autant de glucides. Par contre, on peut en apporter au milieu de la séance si on a besoin qu'une séance dure un peu plus longtemps.
On peut recharger. On verra justement sur l'avant, le pendant, entraînement ou compétition et l'après. Comment ça se met en pratique? Parce qu'il y avait une question de Stéphane qui demandait justement une alimentation avec indice glycémique bas. Est-ce que c'est facile à mettre en place? Comment on peut la mettre en pratique?
Alors oui, c'est facile à mettre en place. Il suffit de regarder les tables de nutrition ou alors regarder dans Nutrition de l'endurance que nous avons écrit. Ou voilà, il suffit de trouver les aliments à index glycémique bas, de les choisir. Alors en gros, ça veut dire qu'on évite les friandises, les viennoiseries. On choisit les légumes et les légumes qui ont un index glycémique tous bas. Les fruits, c'est un plutôt modéré. Les féculents, c'est plutôt bas ou modéré. Alors les lentilles, faut savoir que l'index glycémique, c'est jusqu'à 100, en fait. Hein. Le glucose, c'est 100, c'est la molécule de référence. Pour mesurer l'index glycémique, on fait manger 50 grammes de glucides sous la forme d'un aliment et on voit l'évolution de la glycémie. Donc, on a comparé ça au glucose qui est 100. Donc, voilà, les lentilles, c'est 20, par exemple. Après, il y a des pièges. La baguette, on disait sucre complexe. Bah oui, c'est complexe, mais l'index glycémique, il est à 95. Donc, on oublie la notion de sucre complexe ou sucre simple parce que ça ne reflète pas comment on va évaluer réellement la glycémie. Par exemple, le fructose, c'est un sucre simple, mais c'est un index glycémique à 20, donc ce qui est très bas. La baguette, c'est un sucre complexe, donc ce qu'on disait complexe, hein, mais l'index glycémique, il est très élevé, il est à 95. Sachant que le sucre de table, par exemple, c'est 65, je crois, ou 67. Donc, la baguette, c'est finalement plus rapide comme sucre que le sucre de table. Donc, faut oublier cette notion de sucre complexe et tout. Faut vraiment trouver les tables d'index glycémique et puis on choisit en fonction de ça. Ensuite, on a des moyens de manipuler l'index glycémique. Quand c'est un peu moins cuit que les pâtes al dente, par exemple, elles ont un index glycémique plus bas que les pâtes bien cuites. Même chose pour les légumes. Ensuite, on peut diminuer l'index glycémique avec soit du jus de citron, soit du vinaigre. Donc, ça, c'est intéressant pour la salade. Sur les pâtes, c'est un peu moins intéressant. Ou du gras. Donc, finalement, si vous faites des pâtes al dente avec de l'huile d'olive à l'italienne, ça sera un index glycémique beaucoup plus bas que des pâtes bien cuites, seules.
Donc, ces graisses, on ne les bannit pas. Les gens qui disent, moi, sans graisse, sans rien du tout, c'est pas forcément la bonne stratégie.
Ah non, parce que si, par exemple, les graisses permettent d'absorber une partie des antioxydants. Par exemple, le bêta-carotène qu'on a dans les carottes, ce qui donne les carottes oranges, ou le lycopène qui donne les tomates rouges, sont des antioxydants qui sont très importants pour notre santé, mais qui sont liposolubles. Ils sont absorbés qu'en présence de gras. Donc, si vous mangez une salade de carottes sans gras, vous ne profitez pas du bêta-carotène, c'est dommage. Donc non, le gras est important. De toute façon, notre cerveau, il y a plein de gras. Nos cellules, c'est du gras. Enfin, nos membranes cellulaires, c'est du gras. On a besoin de gras. Notre inflammation, c'est du gras. Nos hormones thyroïdiennes, la testostérone, tout ça, ça passe par le gras. Donc, si on n'a pas cet apport en gras, on court la catastrophe. Non, il ne faut surtout pas bannir le gras comme on le faisait avant. C'est source de vie. C'est simplement qu'il faut mieux les choisir.
Alors, ça a peut-être été souvent banni et les gens faisaient peut-être l'amalgame entre le bon et le mauvais gras en disant bon, on va tout bannir alors qu'on en a quand même besoin dans nos cellules et dans notre composition corporelle.
Bah, c'était banni parce que, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a 4 kilocalories pour un gramme de glucides et 9 pour un gramme de lipides. Donc, on s'est dit si on réduit les apports, ben, on réduit les apports caloriques et donc on va perdre du gras. Mais ça ne tombe pas comme ça parce qu'en plus, les glucides, quand vous les mangez, stimulent l'insuline. L'insuline favorise, c'est un signal, et l'insuline, elle dit à l'organisme, oh là, j'ai plein de glucides, donc bah, je vais utiliser des glucides pour ce que je fais, et je vais en mettre en réserve, je fabrique du gras. Les graisses ne stimulent pas l'insuline, donc on fait moins de réserves de gras, on va consommer le gras. Donc on a en fait l'effet inverse.
Donc on tape, donc, on tape directement dedans, c'est plus c'est bénéfique plutôt que d'aller chatouiller les glucides. Comment en pratique on peut mettre en place justement cette alimentation avec notre pratique du sport? Tu l'évoques hein, dans ton livre donc Ultra Performance, différentes stratégies. L'entraînement à jeun, c'est la première piste que tu évoquais. Est-ce que c'est bénéfique? Est-ce qu'on peut le mettre en place assez facilement? Comment ça se passe et quels sont ses bénéfices?
Alors, l'entraînement à jeun a des bénéfices, mais c'est pas la panacée. En fait, ce qui se passe, c'est que quand je m'entraîne à jeun, toute la nuit, mon métabolisme s'est mis au repos, l'insuline a baissé. Or, j'ai dit tout à l'heure que l'insuline influait sur le mélange de carburant de l'effort. Donc, on va faire cet effort, on va consommer plus de lipides que le même effort en ayant mangé. D'accord? Donc, ça, c'est l'intérêt. Après, la consommation, la différence, elle va pas être phénoménale. Par contre, c'est pratique quand il fait chaud pour aller courir de bonne heure le matin. C'est intéressant de le faire de temps en temps. Mais il y a des moyens de faire mieux. Les moyens de faire mieux, c'est ce que je décris dans Ultra Performance, c'est l'entraînement dit quotidien ou sleep low. En fait, ce qui se passe, c'est que ce qui est important et ce qui stimule la progression, c'est le glycogène dans les muscles. Quand vous baissez le glycogène dans les muscles, c'est un signal, donc un stress, un signal pour s'adapter. Donc, l'organisme devient plus fort. On le fait à chaque fois qu'on s'entraîne suffisamment, le glycogène baisse, on produit un stress, un signal, l'organisme s'adapte et devient plus performant. Il y a d'autres stress, mais il y a déjà celui-là. Donc, c'est la baisse du glycogène musculaire. Or, si on s'est entraîné à jeun, dans la nuit, on a mangé le soir. Dans la nuit, seul le glycogène du foie a baissé, pas le glycogène musculaire parce que vous n'avez pas fait d'activité durant la nuit, ou alors très peu. D'accord? Donc, le signal, il n'est pas adapté. Enfin, il n'est pas majoré. Par contre, si vous vous entraînez une première fois, vous baissez le glycogène musculaire, le glycogène du foie aussi en même temps, vous déclenchez des adaptations. Si vous ne mangez pas tout de suite, les adaptations perdurent. Et si vous vous entraînez derrière, vous majorez encore les adaptations parce que vous avez encore baissé le glycogène musculaire et en plus, vous êtes entraîné là-dessus. Et du coup, on majore les adaptations, enfin, on majore le stress, on majore les adaptations et on progresse plus. D'accord? Deux méthodes de le faire. Soit je m'entraîne le matin, je mange pas, je m'entraîne l'après-midi. C'est ce qu'on appelle bi-quotidien. Soit je m'entraîne le soir, je ne mange pas. Après, je dors comme ça et je me réentraîne à jeun le lendemain matin. Sauf que là, la différence par rapport à un entraînement à jeun classique, c'est que mon glycogène musculaire a été baissé la veille. Donc, le glycogène musculaire sera baissé quand on va commencer la séance.
Alors, quand tu dis on ne mange pas, on recharge quand même un petit peu dans certaines proportions ou rien du tout?
Alors, pas de glucides du tout, parce que les glucides que vous allez, parce que les muscles, ils vont être super, ils ont super envie de glucides. Donc, si vous lui donnez un peu de glucides, ils vont aller directement dans les muscles. Ce qu'on peut faire, c'est manger un peu de protéines, mais un peu, par exemple 2 œufs, pas plus, parce que sinon, on va transformer une partie des protéines en glucides. Donc, le but, c'est de manger un peu de protéines pour l'organisme, par exemple, pour reconstituer les muscles qui ont souffert par la première séance, mais c'est tout. D'accord? Parce que sinon, même de la salade, c'est interdit de manger de la salade parce que chaque gramme de glucides va aller se refixer dans les muscles et on va stopper les adaptations, on va les freiner. Alors, il y a des études qui ont comparé ça, le bi-quotidien, c'est-à-dire à l'entraînement à jeun. C'est-à-dire qu'ils ont comparé la séance à jeun avec la deuxième séance du bi-quotidien. C'est celle où on avait baissé le glycogène musculaire. Et ils ont montré que dans cette séance d'entraînement bi-quotidien, donc la deuxième séance, on consommait plus de lipides, de graisse, que lors de l'entraînement à jeun. Donc, si on s'entraîne à jeun, on va consommer un peu plus de graisse qu'un entraînement normal.
Normal.
Par contre, si on s'est entraîné une première fois lors de la deuxième séance sans avoir mangé, on va consommer encore plus de graisse que lors de l'entraînement à jeun.
Alors, comme si ça ouvrait des vannes pour aller chercher finalement ce qu'on n'a pas eu pendant la journée.
Oui, en fait, c'est que comme on a baissé le glycogène musculaire, il envoie un signal et il dit on va faire comme ça.
Alors, est-ce qu'il n'y a pas un risque de tourner de l'œil, d'être un petit peu en manque d'énergie sur cette deuxième séance? Parce que celle du matin, on va la faire à intensité modérée, je pense.
Alors, non. Alors, entraînement à jeun, on recommande de le faire en intensité modérée, effectivement. Quand on fait une séquence à glycogène bas, comme je viens de décrire, si c'est le bi-quotidien ou le cyclo, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on va faire la première séance à haute intensité parce qu'on a déjà du glycogène dans nos muscles. Donc, on a l'énergie pour le faire. Donc, autant profiter de cette énergie pour le faire. D'accord? Donc, on fait une séance de qualité. Deuxième intérêt de ça, c'est que comme on fait de l'intensité, on va consommer plus de glycogène. Donc, on va baisser encore plus le glycogène de nos muscles. D'accord? Et la deuxième séance, par contre, on a peu de glycogène. Donc là, on va plutôt faire de l'endurance.
Donc là, on lève le pied.
Donc, à allure modérée.
Une séance cool pour la deuxième de la journée.
Voilà.
Ou le lendemain matin, si on est en sleep low, effectivement.
Voilà. Alors, effectivement, sur ces séances, sur ces deux séquences, la deuxième séance est difficile. Ceux qui n'ont pas testé, quand ils testeront, s'ils ont envie, ils se rendent bien compte que c'est compliqué. Moi, je conseille au début de le tourner autour de la maison. Hein. Moi, mon premier entraînement en sleep low, quand j'ai lu la première étude qui faisait ça, j'ai fait ça sur mon entraîneur le matin. Heureusement que j'étais pas parti bien loin, que j'étais chez moi, parce que c'était laborieux. Par contre, j'ai fait ça une fois par semaine. Au bout de 4 semaines, je suis parti rouler le matin à jeun 2 heures à bonne intensité. Et j'ai couru 1h30 derrière en ne mangeant rien et en buvant que de l'eau. Et sans gros problème. Donc, il y a vraiment une progression avec ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, ce que je conseille, c'est toujours partir avec un truc à manger, un gel, 2-3 gels, d'avoir quelque chose. L'autre solution que j'aime bien faire aussi, c'est sur cette séquence à jeun, quand je parle en sleep low, si je veux partir longtemps, c'est que je fais, par exemple, 2 heures à vélo. Et là, je commence à manger. Parce que ça me permet d'entraîner mon tube digestif en même temps. On pourra même en parler de l'entraînement digestif si tu veux tout à l'heure. Donc, je fais mes 2 heures, j'ai travaillé à glycogène bas et ensuite je mange. Ça me permet de maintenir l'intensité sur la séquence et en plus, ça entraîne mon tube digestif. Ça, c'est une autre séquence que j'aime bien faire.
Ce qui fait que tu peux prolonger ta séance qui sera beaucoup plus longue vu que tu auras déjà rechargé un petit peu. Sur le jeûne intermittent, est-ce que ça, c'est quelque chose qui... peut permettre d'être plus performant. Ça fluctue là dans les publications. On en parle énormément. Est-ce qu'il y a un réel intérêt un jour d'entraînement? Ça, c'était une question donc posée par Eric qui demandait si le jour d'un entraînement un petit peu costaud, le jeûne intermittent pouvait être utile ou pas. Est-ce qu'il y a un intérêt?
Alors, on n'a pas énormément d'études là-dessus. On a surtout des études sur le Ramadan. Mais le Ramadan, c'est vraiment un jeûne particulier parce que on mange beaucoup la nuit, on dort moins parce que finalement on est occupé à manger et puis en plus on n'a pas le droit de boire dans la journée. Donc c'est un truc un petit peu à part. Il y a quelques études qui montrent que ça altère pas énormément les performances. Par contre, on peut être un peu freiné dans les séances du jour. Par contre, ça peut être intéressant pour perdre du poids. Donc moi, je le ferai pas. Moi, je le fais. Je pratique le jeûne intermittent occasionnellement, mais je le fais pas si j'ai une séance de qualité. Si j'ai une séance de fractionné dans le jour même, je vais pas le faire parce que je sais que ça sera pas profitable. Après, il y a une autre façon que j'ai de l'utiliser, le jeûne intermittent, c'est plutôt que sauter un repas et puis de m'entraîner après, je préfère manger, laisser quelques heures passer, m'entraîner pour baisser le glycogène musculaire, comme on fait avec le bi-quotidien. Du coup, je déclenche les adaptations et là, je mange pas. Et là, je commence mon jeûne. Parce que du coup, je profite de cette adaptation d'avoir baissé le glycogène musculaire. Alors que si je commence mon jeûne sans faire de sport, mon glycogène musculaire, il sera élevé. Et je ne déclenche pas les adaptations. Alors, c'est aussi ce que j'appelle la récupération retardée. D'accord. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas de choses comme ça. Par contre, il y a quelques études qui ont montré que si on sautait le petit-déj, qu'on mangeait le midi, mais qu'on voulait faire du fractionné le soir, on pouvait être moins efficace sur le fractionné le soir. Donc, OK, ça peut être intéressant, par contre, dans les journées où on fait de l'endurance. Mais ça fait partie aussi des stratégies de périodisation. Donc, ça peut être parfois je fais du jeûne intermittent, parfois je fais de l'entraînement à glycogène bas, parfois je fais de l'entraînement en mangeant plus que d'habitude et en mangeant beaucoup durant l'effort. C'est ce que j'appelle l'entraînement digestif. Ça a été prouvé scientifiquement aussi qu'on améliorait nos capacités à utiliser les glucides et donc on devenait plus polyvalent. Parfois, on peut faire du cétogène. Voilà, c'est en fonction de là où on est, de notre périodisation. De l'hiver, on va pas forcément faire la même chose qu'en pré-compétition. Voilà, ça fait partie des stratégies de périodisation qu'on peut utiliser. Alors l'avantage de faire du jeûne intermittent, c'est qu'il y a un effet anti-inflammatoire, ce qui peut être intéressant. C'est qu'il y a un effet sur le métabolisme. On va vraiment baisser la sécrétion d'insuline. Donc voilà, et puis on peut perdre un petit peu de poids. Pour quelqu'un qui a un petit peu de poids à perdre, c'est une autre solution.
Et est-ce que psychiquement, on se sent peut-être plus alerte ? Des études disaient qu'on se sentait, notamment avec un retard finalement de la prise alimentaire, on se sentait plus en alerte et peut-être pas avec nos petits déjeuners, je pense notamment du matin. Ce coup de pompe à 11h, on ne l'a peut-être pas du fait de ce jeûne intermittent.
Oui, c'est vrai. C'est à cause de l'insuline. En fait, quand on mange, on a des glucides, on a l'insuline qui s'élève et qui va créer une hypoglycémie un peu plus tardive, surtout si on a mangé des trucs très riches en glucides ou avec un index glycémique très élevé. Et du coup, cette hypoglycémie va faire une petite léthargie et puis va donner une sensation de faim précoce. Donc oui, ça peut être cohérent.
Alors, moi, j'aime bien, toi, les séances le matin à jeun, parce que, ben, côté pratique, je pars avant que toute la maison soit réveillée. Donc, ça, c'est déjà sympa et je rentre. C'est un peu une séance fantôme, comme je l'appelle. Par contre, au niveau digestif, le retour à la maison, il est parfois très, très rapide parce qu'il y a besoin d'un petit passage aux toilettes. Comment ça s'explique, ce transit un peu rapide?
Bon, de toute façon, l'activité physique favorise le transit, déjà. Mais pourquoi plus à jeun, j'ai pas l'explication parce que non, j'ai pas l'explication. Puis moi je l'ai pas comme ça. Alors je l'ai plutôt quand j'ai mangé, moi, tu vois.
D'accord.
Donc c'est un peu l'inverse de toi.
Et une séance qu'on ferait donc là, toi, j'ai mangé, il était midi. Si je veux faire une séance à 14h, 14h30, est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on va se sentir lourd? Tu disais justement de cette adaptation digestive et de brusquer un petit peu le corps dans ses habitudes. Est-ce qu'on va sentir un inconfort? Est-ce qu'on va se sentir lourd ou est-ce qu'il vaut mieux laisser passer les traditionnelles 3h, 3h30? Ça va dépendre de chacun, je pense, en termes de transit.
Alors ça dépend de chacun, ça dépend de ce que tu as mangé. C'est-à-dire que ton confort digestif, si tu as mangé un morceau de poulet avec un peu de riz, bah, ça peut être la même chose que si tu as mangé du cassoulet ou des sardines. Donc, ça dépend déjà de ça. Après, pour la plupart des cas, 2 heures, ça suffit. On dit 3 heures avant une compétition, mais si tu as un repas un peu plus facile à digérer, 2 heures, ça peut passer. Si tu as une compétition qui est très matinale, que tu dois commencer à 6 heures, bah, si tu arrives à te lever à 3 heures plutôt qu'à 2 heures et de décaler en mangeant quelque chose d'un peu plus facile à digérer, ça te sera peut-être plus profitable. Et à l'inverse, par contre, effectivement, à l'entraînement, il est parfois intéressant de partir le ventre plein, justement pour que ton organisme apprenne à digérer durant l'effort. En fait, ça permet d'augmenter le nombre de transporteurs intestinaux au glucose, c'est-à-dire que tu vas avoir moins de glucose qui va stagner dans ton tube digestif. Donc, si ça stagne pas dans le tube digestif, ça fermente pas, tu as moins de troubles digestifs. Et en plus, tu en profites plus pour l'organisme. Il y a des études qui ont montré comme ça que si tu partais t'entraîner en mangeant 90 grammes de glucides par heure, donc 90 grammes de glucides, c'est énorme. Hein, pour ceux qui se rendent pas compte, 90 grammes de glucides, c'est 4 gels et demi, c'est plus de 4 bananes. Donc si on mange ça par heure, à l'entraînement, on va augmenter le nombre de transporteurs intestinaux et donc ça a été prouvé que ça améliorait la disponibilité de glucides pour l'effort. Et ça diminue les troubles digestifs. Donc ça, c'est à faire occasionnellement aussi.
Peut-être pour des coureurs qui se lancent sur du long, enfin ou comme toi sur des Ironman, d'avoir cette habitude de manger sur les compétitions.
Ça dépend de ce que tu appelles du long. Oui, sur un marathon déjà, c'est déjà intéressant. Sur un 10 km, bah, c'est moins intéressant parce qu'on va pas entrer dans la zone où on va vraiment diminuer le glycogène musculaire. Sur un semi-marathon, ça commence à être intéressant. Sur un ultra-trail, bien sûr, c'est très intéressant parce que toute la capacité à digérer sera favorisée. Après, sur un ultra-trail, comme l'intensité est moindre, la digestion est plus facile. Mais c'est intéressant de le faire quand même. Par contre, sur un marathon, où l'intensité est à la fois longue et très élevée, c'est très important parce que c'est là où on va être le système digestif va être le plus perturbé. Et en plus, c'est quand même là où on va réussir à baisser vraiment le glycogène. Sur un Ironman, c'est aussi très intéressant parce qu'on a besoin de s'alimenter en permanence. Donc ça, je dirais à partir du semi-marathon, c'est intéressant.
Est-ce qu'il y a besoin vraiment sur un 10 km, comme tu l'évoquais juste avant, de se ravitailler? Parce qu'on on est à des vitesses relativement élevées, donc c'est peut-être pas simple non plus d'aller attraper quelque chose.
C'est ni techniquement simple, ni et en plus, on n'aura pas le temps de l'assimiler. Donc non, ça n'a pas d'intérêt.
Alors, j'avais une petite question sur qu'est-ce que l'on peut prendre avant un entraînement très intense. Question de Laure qui me disait, voilà, sur un entraînement qui va être en fractionné, qu'est-ce que l'on peut prendre avant pour être vraiment au top et combien de temps, justement, avant l'entraînement? Est-ce qu'il y a un délai?
Eh ben, 2-3 heures, un repas normal, pas trop difficile à digérer, donc pas trop riche en gras, mais il en faut quand même. Et rien d'extraordinaire, un repas normal. Après, c'est il y a pas de truc miracle. Ce qu'il faut, c'est qu'on ait suffisamment de glucides dans les muscles, de glycogène musculaire pour faire la séance. Voilà. Donc, si on mange normalement, ça suffit largement.
Donc, le petit goûter, c'est pas forcément là où on va avoir le plus de bénéfices pour notre séance.
Si, ça dépend à quelle heure. Si tu manges à midi et que tu t'entraînes à 18h, oui, se faire un petit encas à 15h, pourquoi pas si tu as une grosse séance. Si tu manges à 14h et que ta séance elle est à 17h, non, c'est pas utile.
Quel type d'encas tu pourrais préconiser? C'est quoi? C'est quelques amandes, demi-banane?
Oui, dans ces cas-là, moi, c'est plutôt des fruits, éventuellement des fruits secs. Mais une banane, c'est bien, ou une pomme, ou un fruit frais de saison. Et puis un peu de noisette ou d'amande, c'est ce qu'on recommande facilement. Des figues sèches aussi, éventuellement, d'avoir un truc de bonne densité nutritionnelle qui apporte un peu de glucides, qui cale un peu. Mais en même temps, si c'est une journée de travail, au niveau glycogène musculaire, la plupart du temps, on n'aura pas vraiment baissé. C'est plus pour le glycogène hépatique du foie, donc dans ce cas-là.
Et est-ce que là, le grignotage lié au stress, il peut être néfaste? C'est-à-dire que bon, on a un petit coup de mou, on dit tiens, allez hop, un petit carré de chocolat par-ci, un petit chocolat par-là. Est-ce que ça, c'est néfaste et c'est lié peut-être au stress? Et là, je pense à toutes les personnes qui sont à la maison en télétravail et qui ont peut-être des difficultés à peut-être bouger, sortir. Est-ce que ça peut influer derrière sur une séance, le fait d'avoir généré du stress dans la journée?
Alors, il y a deux choses dans ce que tu dis. D'abord, il y a le fait que de manger régulièrement comme ça va élever ton insuline et donc ça va perturber ton métabolisme. Même chose que tout à l'heure. Ensuite, il y a le stress. Alors ça, c'est une autre chose. Le stress psychologique, on n'est plus dans le stress physiologique dont on parlait tout à l'heure, qui est adaptatif. Oui. Tout à l'heure, on parlait du stress adaptatif. Là, on est dans un stress psychologique. Bon, il y a des études qui montrent que ce stress psychologique influe sur tes performances. En fait, c'est comme si tu avais ta réserve de ton entraînement, c'est un stress psychologique. Tu crées un stress psychologique, tu pompes dans la même réserve. Et si tu as pompé dans ta réserve avant, tu seras un peu moins efficace après. Donc ça, c'est les théories de Samuel Marcora, un Italien qui a fait des publications. Il a fait faire des exercices, alors c'est du Stroop Task, des choses comme ça, des exercices mentaux à des sportifs. Et il les a fait s'entraîner après et ils baissent leur performance. D'accord? Parce qu'ils créent un stress. Si tu veux, il va pomper un peu dans la même réserve grossièrement.
Oui.
Et d'ailleurs, il a même montré qu'il pouvait améliorer les performances en endurance en entraînant les gens à ce stress-là. C'est-à-dire que tu peux aller te faire une séance de home trainer, par exemple, en faisant des exercices mentaux ou alors faire des exercices mentaux et malgré cette fatigue, te faire une bonne séance derrière. Et dans ce cas-là, tu améliores tes performances en endurance.
Parce que le corps est adapté et il a compris, il sait réagir face à cette situation-là.
Voilà. Et donc, ce stress du quotidien, ce stress du travail, oui, va altérer tes performances dans la journée. D'où effectivement l'intérêt de méthodes alternatives comme le yoga, comme la méditation, qui baissent un peu ce stress psychologique.
Alors on le voit souvent hein, sur des sportifs qui disent « Ah, j'ai fait une bonne séance », mais si on a, et moi je l'ai vécu, hein, des périodes où on est dans l'activité professionnelle, c'est très intense, bah finalement les performances elles sont moindres, la récupération elle est moins bonne et c'est peut-être pas toujours pris en compte et on le voit pas au premier regard, mais ce stress on va dire sociétal, environnemental, familial bah, impacte également nos performances à l'entraînement, je pense que même en compétition.
Alors moi j'en suis persuadé. Et maintenant, c'est vrai que ça fait partie aussi de ma méthode de préparation avant une compétition. Je sais que le dernier jour, alors sur mon deuxième Ironman qui était à Nice, j'avais eu des examens. J'ai eu 3 jours d'examen pour passer un diplôme jusqu'au jeudi, alors que la compétition était le dimanche. Et je me suis rendu compte que ça m'avait bouffé une énergie folle et que j'avais pas réussi à récupérer pour là. Je me suis rendu compte aussi que quand je me stresse. Alors, dans l'organisation, hein, les trucs tout bêtes, où je vais manger, comment je fais ça, il faut pas que je sois en retard, avant une compétition, eh ben, je suis moins bon sur la compétition. À l'inverse, je me suis rendu compte que si j'y vais avec des copains et qu'ils me disent « on mange ça », même si c'est pas ce que je préfère, mais que je me laisse guider, que je me laisse faire, que je me laisse, eh ben, je me sens plus en forme et je réalise de meilleures performances. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que je l'utilise. Et alors, c'est vrai que ce dont je t'ai parlé aussi, l'entraînement en faisant des exercices mentaux, tout ça, ça m'arrive de le faire aussi. Mais voilà, ça fait partie aussi de la préparation, ça, de pas manger son énergie mentale avant.
Et d'être vraiment, donc, le jour de la course, au moment où le départ est donné, vraiment dans les meilleures conditions pour performer.
Voilà, j'ai le plein mental, mais j'ai le plein d'énergie.
D'énergie. Alors, sur l'avant-course, on se rapproche finalement de notre compétition, on va voir... Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme carburant pendant la course? Mais la pasta partie d'une veille de marathon, d'une veille de compétition, est-ce qu'elle est finalement si importante que cela? Si on résume tout ce que tu nous as dit, pas forcément.
Alors, déjà, moi, je la déconseille. C'est un moment convivial, certes, mais la veille de la compétition, on a autre chose à faire que souvent à poireauter des heures nues, n'importe quoi, des heures debout. Pour récupérer une assiette de pâtes trop cuite qui va perturber l'insuline. Donc, moi, je dis la pasta partie, OK, mais l'avant-veille de la course et plutôt autre chose que des pâtes. Donc, s'il y a du riz, il y a des compétitions qui l'ont compris maintenant et qui font cette pasta partie l'avant-veille. Il y a même des rice parties, j'ai déjà vu faire. Et ça, c'est plus intelligent. Alors, j'ai rien contre les pâtes. Hein, la plupart des gens le tolèrent bien, mais il y a des gens chez qui le gluten, ça peut poser un souci. Voilà, moi je préfère la veille d'une course manger du riz et je prends du riz basmati parce que c'est le riz qui a un index glycémique bas, qui est facile à digérer, qui a pas trop de fibres. Et ça m'arrive même de prendre du riz basmati le petit déj avant la course. Voilà, donc la pasta partie, ok, l'avant veille sans se gaver et de toute façon le plein d'énergie on l'aura fait avant la dernière journée. On n'a pas besoin de faire le plein d'énergie parce qu'on va pas faire grand chose et on va pas risquer de se perturber en mangeant trop. Donc on fait le plein. Par exemple, si on a une compétition le dimanche, on fait le plein d'énergie le jeudi, vendredi. Et le samedi, c'est une journée normale. On mange, comme d'habitude, tranquillement. Voilà, ça, c'est pour la veille ou l'avant-veille.
Est-ce que dans le plein d'alimentation, les poudres type maltodextrine et autres, c'est conseillé ou il vaut mieux passer, comme on l'a évoqué depuis le début de cette interview, par des produits vrais et par de la bonne cuisine?
Alors, je suis absolument contre ces poudres Malto et compagnie. C'est de la maltodextrine. La maltodextrine a un intérêt, mais pas avant la course. C'est un index glycémique très élevé. Alors, j'ai eu du mal à trouver l'index glycémique parce que personne ne le publie. Il y a certaines marques à qui je l'ai demandé qui m'ont dit « on vous répondra pas ». Une poudre très connue et qui ont refusé de me répondre, de me donner l'index glycémique. En fait, l'index glycémique, a priori, très élevé. La seule étude où j'ai trouvé sur le malto montrait que la maltodextrine avait un impact sur l'insuline aussi élevé que le glucose pur. D'accord? Et puis, ben, y a pas grand-chose d'autre dedans. Donc, non, ça n'a pas d'intérêt. Oui, ça va augmenter le glycogène musculaire, ça, c'est vrai, mais ça va aussi perturber l'organisme. On peut faire aussi bien avec des aliments vrais. Voilà, il suffit de manger des fruits secs les derniers jours avant, de manger... de boire un peu de jus de pomme, de manger des fruits secs, de manger un peu de riz, enfin beaucoup de riz, Des patates douces, des choses comme ça, et on arrive à faire aussi bien. Sauf qu'on va pas perturber notre santé, parce que c'est un index glycémique à 100, c'est hyper élevé, sans perturber notre santé et nos performances. Donc ça, je suis contre. Après, les maltodextrines, on y reviendra tout à l'heure si tu veux, elles ont intérêt en course.
En course,
durant
ouais.
la course, ça, bah, ça peut être intéressant.
On rebondit dessus, en course. Alors, vas-y, je te laisse finir.
J'ai juste une autre... anecdote à te raconter là-dessus, c'est que sur un Ironman avec des amis, on était 6, il y en a 3 qui ont pris du malto avant et 3 qui n'en ont pas pris. Coïncidence, les 3 premiers sont ceux qu'on n'avait pas pris. Alors, c'est une étude personnelle, machin, avec tout l'impact, ça n'a pas une valeur scientifique phénoménale, mais quand on a fait ça, ça m'a intrigué et c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser. Et autre chose, je ne sais pas si d'autres que moi ont remarqué ça, mais quand je faisais du malto, parce que c'est arrivé de le faire avant, j'avais mal à la tête. Et maintenant, j'avais mal à la tête durant la cure. Donc voilà, ça me perturbait. Donc moi, j'ai arrêté ça et je suis contre.
Et on repasse par des produits naturels, ce que tu disais, hein, fruits secs.
Et puis, voilà, on a des minéraux, on a des antioxydants, on a des vitamines, on a plein d'autres choses dedans.
Bon. Après ces anecdotes, donc je rebondis sur justement qu'est-ce que l'on peut prendre en compétition ou à l'entraînement si on a une sortie longue pour optimiser finalement notre séance, avoir des performances qui soient, on va dire, beaucoup plus régulières. Est-ce que les gels, des boissons liées à l'effort, c'est utile ou est-ce qu'il y a d'autres solutions que toi tu utilises et que tu as pu expérimenter?
Alors. Ce qu'il faut se dire, c'est que durant l'effort, on a besoin de glucides parce qu'on a vu ensemble tout à l'heure qu'on va les consommer et qu'on va diminuer rapidement les stocks. Donc, c'est surtout important en compétition. À l'entraînement, ça peut être intéressant pour certains fractionnés ou certaines sorties longues. C'est sûr que si je pars courir 45 minutes tranquille, ça a un gros intérêt. Voilà. Ce qu'il faut consommer, c'est des glucides qui soient rapides, donc à index glycémique élevé. Parce qu'on veut pas que ça stagne dans le tube digestif. Si je prends des fibres avec un index glycémique très bas et ça stagne dans le tube digestif, non seulement j'en profiterai pas, mais en plus je risque de favoriser les troubles digestifs. Donc on choisit plutôt des index glycémiques élevés. C'est sûr que par contre, si on part sur de l'ultra, on peut peut-être descendre un peu l'index glycémique et quelque chose de modéré parce que le système digestif ne va pas être aussi perturbé et puis que ça fera pas autant de yo-yo au niveau de l'insuline. Voilà. Mais plutôt index glycémique élevé, donc du glucose, éventuellement de la maltodextrine, on y revient, parce que la maltodextrine, c'est du glucose où on a agrégé toutes les molécules, et du coup, ça donne une longue molécule, donc ça donne une tonicité. Vous avez déjà vu, les boissons isotoniques sont plus intéressantes, parce que si c'est hypertonique, ça va favoriser un appel d'eau et ça se digère mal. Donc l'intérêt de la maltodextrine, là, elle est intéressante, parce qu'elle permet de diminuer la tonicité de la boisson, et en plus, ça a un goût neutre. Ça évite d'avoir un goût trop sucré parce que oui. c'est vite lassant. L'autre intérêt, c'est que donc ça c'est intéressant pour les efforts. Plus si c'est court, le glucose va suffire. D'accord. Alors en dessous d'une heure, il n'y en a pas besoin. Entre une et deux heures, le glucose va suffire. Au-delà, ce qu'on recommande souvent, c'est d'avoir une boisson avec deux formes de glucides, du fructose en plus du glucose. Le glucose peut être apporté soit sous forme de glucose, soit sous forme de maltodextrine, soit sous les deux formes. Et le fructose aussi. L'intérêt, c'est que en fait, le fructose et le glucose vont pénétrer par des canaux différents. Donc finalement, on ne va pas embouteiller les canaux et on peut absorber plus de glucides durant l'effort. Et donc ça, on a prouvé qu'on pouvait, j'ai plus les chiffres exacts, mais je crois que c'est utiliser 1,2, 1,3 grammes de glucides par heure versus 1 gramme si on n'a que du glucose pur. Donc ça, c'est la façon de choisir. Ensuite, est-ce qu'on doit choisir une boisson? La boisson, c'est simple, c'est tout en un. Il y a les glucides, l'eau et il y a du sodium dedans si on choisit bien la boisson et d'autres minéraux. C'est l'avantage, c'est que pour mieux faciliter l'assimilation de l'eau ou du glucide, le sodium est intéressant et en plus, ça permet de s'hydrater.
Est-ce qu'on peut la faire soi-même, cette petite boisson?
Alors, c'est compliqué à faire. Dans un de mes livres, Assiette de l'endurance, on en avait fabriqué nous-mêmes. Et on les avait testés, contrairement à certains qui nous proposent des boissons faites maison, nous, on les avait testés en laboratoire pour connaître la tonicité, savoir si elles étaient isotoniques ou pas. Et on fait facilement des boissons hypertoniques, donc plus difficiles à contrôler. Enfin, plus difficiles à digérer. Autre problème, c'est que souvent, on fait ça avec du jus de fruits. Et la plupart des jus de fruits sont trop riches en fructose. En fait, le rapport idéal, c'est 2/3 de glucose, 1/3 de fructose maximum, pas plus de fructose. 2/3 de glucose, 1/3 de fructose. Et souvent, les jus de fruits ont plus de fructose que ça. Donc, c'est pas l'idéal pour une compétition. Par contre, à l'entraînement, occasionnellement, ça posera pas de gros soucis.
Voilà. Au niveau des prises ensuite alimentaires, est-ce qu'on privilégie des choses solides ou est-ce que des gels qui soient déjà liquides, c'est bénéfique ou est-ce qu'il faut bannir les gels et prendre des solutions plus naturelles, je dirais?
Alors, en termes d'efficacité, les gels ont prouvé d'être efficaces autant que les boissons et autant que les barres. Après, c'est une question de confort. Les gels sont plutôt pas mal faits, sauf qu'ils n'ont pas de sodium. Les barres sont plutôt pas mal faites, sauf qu'elles n'ont pas de sodium. Les barres sont plus difficiles à ingérer quand on est en effort intense. Un gel, c'est facile à assimiler. Quand il fait un peu chaud, la barre, si c'est un peu sec, c'est difficile à assimiler. Donc ça, c'est une question de confort. Moi, il y a un autre truc que j'aime bien, c'est les bananes. Je trouve que c'est vraiment facile à assimiler en course. Par contre, à transporter, c'est pas facile, sauf si on a le ravitaillement. Donc ça, c'est compliqué. Ça, c'est une question de confort. Les gels, il y a deux types de gels maintenant. On a les gels classiques qui sont les petits gels qui sont hypertoniques. Donc, il faut les prendre avec de l'eau, pas avec de la boisson de l'effort parce que sinon, on va avoir quelque chose qui va être hypertonique et va être difficile à assimiler. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Moi, les gels, je ne les supporte pas. » C'est parce qu'ils ne les prennent pas avec de l'eau. S'ils les prennent avec de l'eau, ça va être isotonique et ça sera plus facile à assimiler. Alors maintenant, ils ont sorti des gels isogels ou machin qui sont un peu plus liquides mais un peu plus volumineux et qui, eux, sont isotoniques et qui se tolèrent beaucoup mieux. Donc, voilà pour les gels.
Après avoir réalisé notre course, on va récupérer ou après un entraînement, on va être dans une phase de récupération. Donc, on l'évoquait tout à l'heure, recharge avec un petit peu de protéines si la séance a été relativement intense. Quels seraient tes conseils pour bien récupérer et pouvoir enchaîner les entraînements ou passer d'une compétition à une autre quand il y en aura? Parce que pour l'instant, on est toujours sevré.
Alors, il y a deux choses. Quel est mon objectif après? Est-ce que ma prochaine séance, ça sera une séance d'intensité? Est-ce que ça sera une séance d'endurance? Est-ce qu'elle sera dans 3-4 heures? Est-ce qu'elle sera dans plus de 12 heures? Ça va être une chose différente. Si ma prochaine séance, c'est de l'intensité et qu'elle est dans 3-4 heures, eh ben, il va falloir que je me fasse une séance de récupération avec des index glycémiques élevés pour stocker vite le glycogène musculaire. Éventuellement, un peu de protéines si j'ai cassé des fibres avant. Voilà. Si ma séance est de l'endurance, ma prochaine séance est de l'endurance, ou si elle est plus éloignée, j'ai pas besoin de me gaver de glucides tout de suite. J'ai pas besoin d'avoir un index glycémique élevé. Il suffit d'avoir un index modéré ou bas, ce qui sera meilleur pour la santé. Et ça me permettra d'avoir restocké suffisamment de glycogène pour la suite.
Donc, ça dépend vraiment de ce que l'on va enchaîné de ce qu'on va prévoir derrière, voilà. À l'image de ce qu'on disait sur l'alimentation tout à l'heure, en fonction de la séance le matin ou le bicotidien, on va avoir des prises qui vont être complètement différentes.
Donc vas-y, je t'écoute.
Ça nous oblige à être acteurs aussi de notre alimentation et de pas forcément toujours avoir la même alimentation de façon linéaire sur la semaine. Si j'ai un entraînement, dans deux jours, c'est du fractionné, on va adapter finalement la ration alimentaire.
Tout à fait. C'est ce qu'on appelle la périodisation. Alors, ça demande d'avoir bien compris. Ça demande d'avoir compris ce que j'ai fait avant, compris ce que je vais faire et compris ce que je veux adapter. Parce que l'autre solution, c'est aussi je ne récupère pas, je ne mets pas de ration de récupération et je m'entraîne 3 heures après et je fais une autre façon de faire.
Est-ce qu'il y a un risque d'avoir, entre guillemets, une récupération au niveau alimentaire qui soit insuffisante? Est-ce qu'on peut tomber dans des carences ou des blessures, tout simplement, derrière?
Oui, puis on peut tomber dans de la fatigue. C'est pour ça qu'il faut le programmer. C'est pour ça que l'entraînement bicotidien ou à glycogène bas, moi, je le conseille une fois par semaine. Ou alors, il y a des études qui ont été trois séquences par semaine, mais pendant 3 semaines seulement. Mais par contre, c'est pas de diminution de la ration glucidique aux autres horaires. C'est-à-dire que c'est juste je décale, mais je mange autant. Effectivement, ce qu'il faut pas tomber, c'est dans le « je récupère pas, je me pousse trop loin et j'ai une ration calorique insuffisante ». Et dans ce cas-là, on va aboutir à des problèmes osseux, des problèmes musculaires, des problèmes de fatigue, surentraînement et tout ça. Donc, il faut pas tomber dans l'excès. Il faut vraiment penser à ce qu'on va faire. Mais quand je parle de bicotidien ou de cyclo, c'est pas je mange moins, c'est je mange autant, mais je le
déplace
à autre moment.
Oui.
C'est ça qui est important. Il faut pas, il faut faire attention à tomber dans l'extrême, quoi. Et se dire, ah bah, je vais faire comme ça tout le temps. Non, il faut pas faire comme ça tout le temps. Moi, mon truc, c'est, je le fais plutôt une fois par semaine, à l'approche des compétitions. Alors, je commence 8 semaines avant et puis je m'arrête 3 semaines avant. Mais tu vois, je me laisse 3 semaines où je le fais quasiment pas parce que je veux pas me créer de fatigue à ce moment-là.
Donc, ça oblige à avoir une vue un petit peu plus globale sur son entraînement, sur son planning. Alors, peut-être pas annuel, mais au moins peut-être par trimestre ou par semestre. Je ne sais pas après, en termes de fonctionnement, ce qu'il est le plus judicieux de faire. Mais,
Ça dépend un peu de ce que tu fais comme compétition. C'est-à-dire que si tu fais un marathon, tu vas en faire 2-3 dans l'année, donc tu peux maximum, donc tu vas pouvoir t'organiser pour ça. Si tu fais l'ultra, ça va être pareil. Si tu fais l'Ironman, ça va être pareil. Tu vas te programmer pour ça, et c'est comme ton plan d'entraînement. En fait, tu prends ton plan d'entraînement, tu programmes des cycles, des machins. Tu programmes ton entraînement et par-dessus, tu viens programmer ta nutrition. Ça m'est déjà arrivé de travailler avec des athlètes comme ça qui avaient un plan d'entraînement fait par un coach. Et en accord avec ce coach, je venais me caler dessus la nutrition et je plaçais comment on allait manger ou comment on allait passer ces séquences-là. Tu vois, donc c'est une autre planification qui vient se greffer par-dessus.
Et ça nécessite.
Mais là, on est dans l'outil.
C'est ça. Il faut être vraiment conscient de ce qu'on a fait, de ce qu'on va faire et de réfléchir à ses prises alimentaires.
Il faut être à l'écoute de ton organisme.
Tout à fait.
À l'écoute, de savoir comment ça se passe. Hein.
Et si on sent un peu de fatigue, peut-être dire je lève un peu le pied et je complète avec une alimentation un peu plus adaptée. J'avais une question, Fabrice, sur la supplémentation type vitamine. Est-ce que c'est utile ou est-ce qu'on peut trouver tout dans l'alimentation?
C'est une question qui est compliquée. On sait que, par exemple, on a testé des sportifs chez qui on avait fait un entraînement. Et on leur a donné beaucoup de vitamine C, d'accord ? On a fait les mêmes sportifs, et on a le même plan, et on leur a pas donné de vitamine C. Enfin, pas supplémenté en vitamine C. Et bien, ceux qui n'ont pas eu de vitamine C ont progressé plus que les autres. Parce que la vitamine C avait caché le stress oxydant. Or, le stress oxydant, quand il n'est pas excessif, est un signal. C'est un stress, et ça donne un signal de progression, comme les signaux dont on parlait tout à l'heure. Enfin, comme les signaux, pardon, dont on parlait tout à l'heure. Donc, si tu apportes des vitamines en excès, tu risques de bloquer un peu la progression. Par contre, si tu as pas assez de vitamines, à l'inverse, tu risques de bloquer aussi la progression. Donc, il faut trouver le juste milieu. Pour moi, le plus important, c'est l'alimentation. D'essayer de trouver ça. Donc, c'est les vitamines, les fruits. Enfin, c'est dans les fruits, les légumes. D'essayer de trouver ça. Après, apporter un complément bien dosé, pas excessif, oui. Par contre, il y a certains minéraux dont il ne faut pas apporter sans avoir mesuré dans le sang. Par exemple, le fer. Si tu apportes trop de fer, tu vas créer un excès d'oxydation. Et là, tu es dangereux pour la santé. Donc, le fer, par exemple, on ne prend pas un complément dosé en fer si on n'a pas fait un bilan sanguin avant. Même chose pour le cuivre. D'accord. Donc, c'est un intérêt, mais faire attention.
Sur un bilan sanguin, tu préconises une fréquence de... Voilà, une fois tous les ans. Une fois tous les deux ans.
Une fois tous les ans ou tous les deux ans. Une fois tous les ans ou tous les 6 mois, c'est pas mal.
Pour voir justement à quel niveau
ça
on
dépend.
Est.
Oui, mais ça dépend. Si tu as quelqu'un qui va courir tranquillement 3-4 fois par semaine, tu n'as pas besoin de faire autant de bilans. Il suffit de faire comme d'habitude. Si tu as quelqu'un qui fait 5-6 marathons dans l'année, oui, il y a peut-être besoin de faire attention un peu à ce qui se passe.
Donc, d'être à l'écoute de son corps. Ouais,
et peut-être chez les femmes. Peut-être chez les femmes, être un peu plus attentif parce qu'avec les règles, elles peuvent perdre un peu plus de fer et donc surveiller le fer un peu plus assidu.
Bien. Bon, je pense qu'avec tous ces conseils, on est armé pour manger correctement et avoir des performances donc sur les mois à venir. Alors, j'invite les auditeurs du podcast à se plonger dans tes ouvrages avec un nouvel ouvrage qui sort donc le 25 février, qui sera sorti, je pense, quand le podcast sera sur les plateformes. Fabrice, sur quel réseau on peut te retrouver? Sur quelle plateforme les gens peuvent échanger avec toi?
Alors, le truc le plus simple pour moi, c'est Facebook où j'ai ma page auteur.
Donc, je remettrai tous les liens. Donc,
Après, j'ai mon blog chez mon éditeur Thierry Soucard où je fais quelques publications. Mais le plus simple, c'est Facebook.
Donc bon, je mettrai le lien et après, si les gens veulent tester tes séances PaléoFit, bah, je les incite à le faire parce que je pense qu'ils peuvent vraiment, vraiment progresser et puis bah, retrancher un peu leurs limites parce que pour l'avoir expérimenté, elles piquent un petit peu ces séances. Un grand merci à toi, Fabrice, pour ce long échange. Mais je pense qu'on a déjà posé des bases relativement solides sur la nutrition. Et puis, je pense que j'aurai d'autres questionnements hein, sur de futurs épisodes. Donc, je reviendrai vers toi pour quelques précisions, je pense.
Avec plaisir. Et merci à toi pour ton invitation.
Merci à toi, Fabrice. Et puis, pour les auditeurs, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. J'espère que cet épisode avec invité vous aura plu. Je vous remercie infiniment de votre écoute. Pour faire remonter le podcast dans les classements, je vous invite à laisser une petite évaluation sur Apple Podcast, 5 étoiles, un petit commentaire, ça me fera énormément plaisir et vous permettrez au podcast d'être remonté, diffusé, déployé sur ces différentes plateformes de façon plus importante encore qu'il n'est actuellement. Et puis je vous invite à me retrouver sur les différents réseaux, hein, Facebook, Instagram, laissez votre petit message, votre commentaire, ça me fait plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez des questions, si vous voulez échanger sur quelconque sujet en lien avec la course à pied, mais pas que, parce que le sport c'est une philosophie de vie et c'est une passion qui nous anime de façon commune, donc n'hésitez pas à venir échanger avec moi. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes.